Sandra Biscardi.
Condamné pénalement le sexisme en Suisse, le Conseil des États en débat cet après-midi. Le National a déjà donné son feu vert. Alors Salomé Laurent, que contient exactement la proposition en discussion ?
Le texte veut inscrire le sexisme dans le code pénal. Actuellement, la Suisse réprime l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie. Il y a même un article du code pénal précisément pour ça, le 261 bis. Il prévoit, je cite, jusqu'à 3 ans de prison pour tout acte de discrimination ou d'incitation à la haine en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse et depuis 2020, de l'orientation sexuelle. L'idée de la proposition votée aujourd'hui est claire, ajouter le sexe comme nouvelle raison qui pénaliserait les appels à la haine et à la discrimination. Si le National l'a déjà accepté, la commission du Conseil des États, elle, propose de le rejeter. Rien n'est donc joué à ce stade et pourtant, ce projet est porté par 6 parlementaires, 5 femmes et un homme, aux couleurs politiques bien différentes. Socialistes, centristes, PLR, Verts et Verts libéraux ont accordé leur violon pour porter le projet ensemble. Reste à savoir si cette alliance convaincra les deux chambres.
Interdire les téléphones portables à l'école, 80% des Suisses sont pour, selon le sondage Sotomo publié hier pour la Maison Bernoise des Générations, même chez les 18-25 ans et surtout chez ceux qui ont fait un apprentissage. Il va bousculer vos habitudes, modifier votre quotidien, rallonger peut-être votre trajet ce matin ou alors vous faire changer de train pour arriver à destination. Le nouvel horaire CFF est en vigueur depuis hier. Il prévoit davantage de trams mais des temps de parcours plus longs. Pas un problème, se défend le directeur romand des CFF, David Fatber.
Est-ce qu'il vaut mieux ralentir de quelques minutes afin d'assurer un système qui fonctionne en termes de chaîne de transport, y compris avec les bus régionaux et les autres chemins de fer, ou garder le système actuel qui, en heure de pointe, est à bout de souffle et il faut souvent courir pour atteindre sa correspondance, voire on la rate et on perd une demi-heure à une heure de temps. Mais par contre, pour la majorité des clients romands, on a une offre qui est augmentée, on a des cadences qui sont meilleures, mieux réparties autour de l'horloge et qui permettront de voyager beaucoup plus, avec beaucoup plus de flexibilité et plutôt une garantie d'arrivée à destination avec l'horaire qui était prévu.
Le directeur romand des CFF, David Fatber, hier soir dans Forum sur RTS Première. Ils n'ont plus d'eau potable, plus d'électricité et souvent plus à manger non plus. Les survivants du cyclone Chido à Mayotte, département français de l'océan Indien, cherchent leurs proches dans les décombres des bidonvilles rasés par des vents de plus de 220 km/h. 2 ministres démissionnaires sont attendus sur place aujourd'hui pour constater la désolation dans ce département le plus pauvre de toute la France. Les autorités redoutent des centaines de morts. Une semaine décisive s'ouvre en Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz va poser la question de confiance aux députés du Bundestag aujourd'hui, en début d'après-midi. Et selon toute vraisemblance, Blandine Milsan, il ne va pas l'obtenir, ce qui va ouvrir la voie à de nouvelles élections.
La séance s'ouvrira à 13h cet après-midi avec un discours d'Olaf Scholz pour expliquer pourquoi il demande la confiance aux députés du Bundestag, sachant qu'il ne veut pas l'obtenir. Après un débat d'une heure et demie environ, le vote interviendra vers 15h30. De fait, il devrait être négatif car le parti social-démocrate SPD d'Olaf Scholz et les Verts ne disposent plus de majorité à la chambre basse du Parlement. En outre, les députés écologistes devraient s'abstenir à l'issue de ce vote. Et si, comme prévu donc, il n'obtient pas la confiance, le chancelier allemand se rendra à la résidence du président de la République pour lui demander, comme le veut la procédure, de dissoudre le Bundestag, ce qui devrait intervenir à la fin du mois, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles élections. Elles sont prévues pour le 23 février prochain. Le recours à un vote de confiance est assez rare en Allemagne, connu pour sa stabilité politique. Il n'a eu lieu que 5 fois depuis 1949. Blandine Milsan, RTS Berlin.
Human Rights Watch accuse ce matin les forces paramilitaires de soutien rapide et les milices alliées au Soudan d'avoir commis des violences sexuelles généralisées dans le sud du pays. Le Soudan, rappelons-le, ravagé par plus d'un an et demi de guerre entre 2 généraux rivaux. En hippisme, pas de Suisse sur le podium du Grand Prix de Genève hier, mais un Néerlandais, Harry Smulders, devant une Italienne et un Belge. Martin Fuchs termine 8e, Steve Gerda a abandonné. Le jeune Genevois Edouard Schmitz se classe 14e. En football, Lugano terminera l'année dans la peau de leader de Super League, même s'il a perdu 4-1 hier à domicile contre Lausanne. Les Tessinois ont une longueur d'avance sur Bâle et Lausanne, justement, meilleure équipe romande. Servette pointe à la 5e place après sa défaite 2-1 à Berne contre Young Boys. La pause arrive au bon moment pour les Genevois qui n'ont gagné qu'un seul de leurs 7 derniers matchs. Écoutez l'analyse du gardien Jérémy Frick.
Je pense qu'à part Lausanne, on a toujours fait des bons matchs. Les performances étaient là et pas le résultat. Et voilà, si on veut maintenant un petit peu mettre un petit coussin en se mettant devant, il faudra récupérer ces points qu'on a perdus bêtement.
On a le sentiment que depuis que Servette a pris cette place de leader fin octobre, eh bien, il y a eu comme un moment plus compliqué derrière, comme si peut-être mentalement on avait pris conscience que c'était finalement possible.
Non, on ne pense pas à ça, franchement, dans VCR, et je ne vous mens pas, c'est pas pour parler politiquement correct, on ne parle pas du tout de cette première place pour l'instant. Ça arrivait aussi, on a eu un calendrier compliqué à un moment donné, on a enchaîné les grosses équipes, on a réussi à faire des points quand même, et deuxième partie de championnat, on aura un calendrier peut-être un peu plus doux, on va dire. Comme j'ai dit, c'est là qu'on devra un petit peu taper du poing sur la table et puis voilà, prendre un nouvel élan pour cette année 2025.
Des propos recueillis par Grégoire Rogier, le ski suisse brillant ce week-end. Loïc Meyer, troisième du slalom de Val d'Isère, et Lara Gout-Berami, deuxième du Super G de Beaver Creek, ont apporté hier leur pierre à un palmarès déjà bien étoffé. Le ciel sera nuageux sur le Jura aujourd'hui, bien ensoleillé ailleurs. Après avoir pulvérisé les bons brouillards du plateau, il fera au maximum 7 degrés en pleine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Du 14 au 20 décembre, la RTS et la chaîne du bonheur se mobilisent contre les violences faites aux enfants, en Suisse et dans le monde, avec l'opération Cœur à Cœur. Une campagne de dons dans plus de 7 villes romandes, des dizaines de bénévoles pour une action unique, 70 heures de direct sur les antennes de la RTS. Rejoignez-nous près de chez vous et sur toutes nos plateformes. Parce que face à la maltraitance infantile, donner est un jeu d'enfant. Faites un don sur coeur.rts.ch.
Musique Matin. Sidney Fierrot.
Et avec vous jusqu'à 9h, avec dans quelques instants la nouveauté du disque, nous parlerons du pianiste Antonio Oyarzabal, qui a dédié un disque aux femmes compositrices. Enfin, j'aurai le plaisir d'avoir Olivier Latry, le titulaire légendaire des orgues de Notre-Dame de Paris, qui sera au téléphone avec nous pour nous parler de son prochain concert qui aura lieu vendredi prochain à l'abbaye de Saint-Maurice. Et puis j'aurai des places à vous offrir pour le Victoria Hall. Tout ça, c'est dans 7h jusqu'à 9h donc sur RTS Espace 2. Thank you. C'est la musique de Vaughan Williams avec cet allegro du quartet à cordes en ut mineur, ici interprété par le Verdi Quartet que nous venons d'entendre. Il est 8h16 et c'est le moment de la nouveauté discographique du jour. Je vous parle de l'album La Muse oubliée 2 qui a été publié par le label, je vais le retrouver tout de suite, Ibs Classical. Voilà, je l'avais juste sous les yeux, avec le pianiste Antonio Oyarzabal, qui est dédié donc à la redécouverte, à la mise en lumière des œuvres de compositrices qui sont souvent négligées dans l'histoire de la musique classique. Un album donc qui vient de sortir cette année et qui poursuit l'exploration qu'il avait commencé avec un premier volume et en présentant 18 compositrices des différentes époques et d'origine géographique. Il y a 29 pièces dans cet album. Vous pourrez découvrir des compositrices comme Miriam Hyde, Marianne von Martinez, Elisabeth von Hortzengeberg, Nadia Boulanger et Dana Suess notamment. Alors je ne les cite pas toutes, hein, vous trouverez toutes les informations si vous achetez cet album évidemment ou si vous cherchez sur internet. Et donc j'aimerais qu'on écoute une pièce de cette compositrice, pianiste et parolière américaine qui était souvent surnommée la Gershwin au féminin parce qu'elle avait une grande capacité à fusionner les styles classiques et jazz. C'était une enfant prodige, elle s'est installée avec sa mère à New York et elle a été formée par Alexander Siloti qui était un élève de Franz Liszt. Elle a notamment composé plusieurs succès comme My Silent Love ou encore You Ought to Be in Pictures en collaboration avec des paroliers comme Eddie Hyman. Elle a écrit également des œuvres orchestrales et la presse l'a reconnue, notamment dans les années 30. Elle était très très populaire comme l'une des rares compositrices américaines à avoir été présentée aux côtés de George Gershwin lors des concerts symphoniques de General Motors, notamment diffusés sur NBC. Alors je vous propose qu'on écoute de cet album American Nocturne. Thank you. Et c'était American Nocturne de Dana Suess, compositrice donc américaine qu'on nommait la Gershwin féminine, avec Antonio Oyarzabal au piano pour cet album, La Muse oubliée, volume 2, paru au label Ibs Classical, qui rend honneur donc et hommage à toutes ces femmes compositrices qui sont parfois tombées dans l'oubli. Et donc, voilà, pour ce très bel album que je vous invite à découvrir. Il est 8h22, vous êtes bien à l'écoute de Musique Matin sur RTS Espace 2. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir au téléphone ce matin Olivier Latry, organiste mondialement reconnu, titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris, qui sera en concert le 20 décembre prochain à l'abbaye de Saint-Maurice pour une soirée exceptionnelle. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Merci beaucoup. Ça va, c'est pas trop tôt, 8h, 8h20, vous êtes bien réveillé, c'est bon?
Vous savez, les organismes sont rompus à n'importe quel horaire, comme on travaille de toute façon la nuit ou le petit matin.
Voilà, c'est ça. Vous avez déjà travaillé 3 heures donc sur vos orgues, c'est bon?
Presque.
Presque. Donc vous serez en concert à Saint-Maurice le 20 décembre prochain, vendredi à 20h30, dans cette très belle basilique. Et vous jouez donc dans cette basilique. Comment est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lieu? Est-ce qu'il représente pour vous?
Écoutez, je veux bien en parler par rapport à ce que j'en sais, mais pas par rapport à ce que je connais, puisque ce sera la première fois que j'y m'y rendrai.
D'accord.
Mais par contre, effectivement, c'est un lieu que je connais déjà parce que mon épouse y a joué il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril, elle est aussi organique. Et aussi parce que je sais que c'est très célèbre sur le plan de l'orgue, notamment, il a passé extrêmement important. J'ai quelques élèves qui ont remporté des prix au concours de Saint-Maurice et notamment j'ai un ancien élève qui est maintenant Thomas Kintz, organiste à Saint-Maurice.
Qui est l'organiste titulaire de Saint-Maurice. D'accord, et alors ce concert est présenté comme un moment assez unique. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce que le public pourra entendre ce soir-là?
Alors, je veux dire, c'est presque un festival Latry, je suis désolé de dire ça comme ça, mais en fait, il va y avoir beaucoup d'improvisation.
Oui.
Sur des chants qui seront chantés, enfin qui font partie du répertoire usuel de l'abbaye et qui seront chantés par la Scola, l'abbaye de Saint-Maurice. Et on va aussi jouer, ça c'est un choix de Charles Barbier, mon Salve Regina que j'avais composé il y a une quinzaine d'années et qui sera donc donné cette occasion, notamment aussi en lien avec la réouverture de Notre-Dame.
Mmh. Donc le...
Alors, à préciser, pardon, excusez-moi de vous couper, que Charles Barbier était à Paris quand nous avons enregistré le Salve Regina pour la Maison Hortus, et c'est lui qui était chargé de la partie grégorienne qui avait chanté le chant. Donc en fait, voilà, ça va être une deuxième, j'allais dire, après la première qui était le disque. Là, on va faire ça pour la deuxième fois ensemble à Saint-Maurice.
J'imagine que l'émotion était grande à Notre-Dame de Paris pour cette réouverture et pour ces concerts auxquels vous avez participé, je crois.
Ah oui, bien sûr, évidemment. Vous imaginez qu'on ne sort pas indemne d'une telle semaine. C'était assez dur de revenir dans la vie réelle, je dois dire. Mm-hmm. Mais effectivement, c'était la résurrection d'une cathédrale n'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. D'ailleurs, l'incendie de la cathédrale non plus, mais heureusement. mais effectivement, c'était de grands moments. Mais maintenant, je dois dire que ce que j'attends de Notre-Dame, c'est surtout le retour à la vie normale, pour autant qu'une cathédrale comme Notre-Dame puisse avoir une vie normale, mais au moins un tout petit peu plus régulière et que ce qu'on a connu là ces derniers jours.
Alors l'improvisation, vous le disiez, que donc vous allez avoir un concert qui va être tourné autour de l'improvisation, c'est quand même un peu votre spécialité, vous êtes reconnu mondialement pour vos talents d'improvisateur. Est-ce que l'improvisation pour vous, Olivier Latry, c'est un moyen de rendre l'expérience musicale plus accessible, immédiate pour le public?
Je ne sais pas si ça peut être très accessible forcément toujours, je l'espère, ça dépend des cas évidemment. En fait, il faut se laisser vraiment totalement porter par le moment, le lieu et le contexte. Donc, Il est clair que dans le cadre d'un concert d'improvisation comme ce sera le cas à Saint-Maurice, on va explorer un certain nombre de styles musicaux. Je ne vais pas improviser dans le style, dans mon style 21e siècle d'un bout à l'autre. Et en fait, il faut aller coller au plus près, si vous voulez, des musiques qui seront chantées. Et je veux dire que je ne peux pas tellement vous dire, il faut vivre l'expérience, en fait. C'est difficile de vous dire à l'avance, je vais faire ceci ou cela, j'en sais rien, en fait.
Ouais. Comment justement est-ce que vous préparez un concert? Vous dites que c'est la première fois que vous venez à Saint-Maurice, vous allez découvrir donc cet orgue. Comment est-ce que vous procédez? Vous vous installez à l'orgue, vous explorez les différents jeux, vous familiarisez avec cet instrument? Racontez-nous
en fait,
un peu.
Ça prend énormément de temps parce que un orgue est différent d'un autre orgue, évidemment. Donc il faut écouter chaque jeu, chaque sonorité, et puis essayer de voir comment ces sonorités peuvent se marier entre elles. Et ça peut prendre plusieurs heures, effectivement, avant de rentrer dans l'instrument, d'en comprendre le fonctionnement, d'en comprendre le caractère sonore, etc. Essayer d'en déceler un petit peu à la fois les richesses et les particularités. Mmh. Donc... ça prend effectivement du temps, et je veux dire que c'est toujours intéressant parce que, en fait, dans le cadre de l'improvisation, on peut justement aller plus loin que dans le. Si j'avais interprété du répertoire où il a fallu que je sorte, en fait, les registres utilisés par les compositeurs et demandés par les compositeurs. Tandis que là, ben, vraiment, on peut donner libre cours à son imagination et puis essayer de trouver quelque chose qui réellement sorte presque de l'inouï pour certaines choses.
C'est assez surprenant puisqu'on sait que chaque instrumentiste a un instrument de prédilection, un violon, un violoncelle sur lequel il joue tout le temps. Et vous avez bien sûr les orgues de Notre-Dame de Paris, mais vous jouez très souvent plein d'instruments différents. Est-ce que ça conditionne votre approche de la musique, votre façon d'interpréter cette expérience avec tous ces nombreux orgues à travers le monde?
Certainement, certainement. Et je veux dire qu'en plus... un orgue est le meilleur professeur. En fait, quand vous êtes à l'écoute d'un instrument comme celui-là, c'est lui qui va vous dire comment jouer. Donc en fait, si vous voulez, c'est vrai que moi aussi, j'ai peut-être envie de jouer d'une certaine manière, mais dans une certaine limite, parce que de toute façon, l'orgue me dira à certains moments, non, là, il faut faire autre chose. Et si on est à l'écoute vraiment, c'est une collaboration, comme une collaboration avec un musicien chambriste. Je sais pas, quand on fait de la musique de chambre avec quelqu'un, la personne vous dit attention, là j'aimerais bien faire un rubato, attention, là je vais jouer un peu moins fort ou plus fort, etc. Ou bien on suit tout simplement ce que la personne fait. Et c'est un peu la même chose, sauf que l'orgue ne va pas nous dire joue moins fort ou joue plus fort, mais on essaye réellement d'établir cette collaboration avec une machine que l'on ressent humaine.
Alors l'orgue justement c'est un instrument qui peut être parfois intimidant pour certaines personnes qui ne connaissent peut-être pas ou qui ne sont pas très familiers de cet instrument. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs peut-être, auditrices qui nous écoutent ce matin et au sujet de cet instrument et du concert que vous allez donner?
Alors je dirais, mais venez, vous allez entendre comme vous allez entendre comme l'orgue peut être passionnant comme instrument et surtout dans un cadre comme celui-là, je dirais un concert où on va explorer, on va avoir cette alternance, cette collaboration musicale avec la Scola et dans ce lieu en plus. Donc je pense que là, ça peut être une soirée spirituelle pour ceux qui sont croyants ou tout simplement une soirée de beauté pour ceux qui le seraient moins, en tout cas. J'espère et je souhaite un moment agréable.
Merci beaucoup Olivier Latry. Merci infiniment. Je le rappelle, donc vous serez en concert le 20 décembre prochain, vendredi, donc à 20h30, à la basilique de l'abbaye de Saint-Maurice. L'entrée est libre. Il y a une collecte à la sortie. Il y a plus de détails sur le site de l'abbaye de Saint-Maurice où vous pouvez appeler également le 041 24 485 15 34 pour avoir plus de renseignements. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Olivier Latry ce matin pour nous en parler.
Merci à vous.
Excellente journée.
Merci, vous aussi. Thank you.
C'est Olivier Latry que nous entendions ici sur les orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et dans cette symphonie écrite, c'est une transcription pour orgue de Bach, de cette cantate via Dankendier, Gott via Dankendier. Il est 8h35 et dans quelques instants, j'aurai des places à vous distribuer. Et nous entendions aussi la musique de Tchaïkovski avec cet extrait de Casse-Noisette. Il s'agissait de la scène entre Clara et le prince. Je laisse à votre imagination et à cette musique que vous avez entendu le soin de se marier ensemble et de peut-être générer de belles images de ce conte. Donc sur la musique de Tchaïkovski avec ici le Los Angeles Philharmonic Orchestra sous la direction de Gustavo Dudamel. Il est 8h41 et j'ai des places à vous distribuer pour un concert qui aura lieu samedi 1er février prochain au Victoria Hall à Genève à 20h. C'est un concert de Rodrigo Leao. Rodrigo Leao, c'est un compositeur qui est reconnu mondialement pour sa musique qui est un mélange, une fusion entre la musique traditionnelle portugaise avec des sonorités contemporaines. Il est né en 1964 à Lisbonne. Il a joué un rôle clé, on peut le dire, dans la scène musicale portugaise en tant que membre fondateur de deux groupes influents, Sétima Legião en 1982 et Madre Deus en 1985. Il écrit de nombreuses musiques de films et il sera pour ce concert accompagné de ses musiciens violon, violon, alton, violoncelle, guitare basse, accordéon, synthé et chanteuse sur certains morceaux. Un concert qui vous promet une immersion dans un univers musical assez unique entre classique et électronique. Donc si vous voulez assister à ce concert, c'est très simple, vous écrivez à musiquematin@rts.ch, musiquematin@rts.ch, avec un petit mot pour notre collègue Anouk qui se fera un plaisir de vous distribuer ses places.
Beyond this.
C'est Lonely Carousel, ici interprété par Beth Gibbons. C'est la musique de Rodrigo Leao. C'est un des tubes du répertoire de trompettes que nous venons d'entendre, le Scherzo de concert pour trompette et piano d'Alexander Grigori Arutunian, avec Romain Leleu à la trompette, Julien Lepape au piano. Une œuvre qui mêle à la fois, bien, vous l'avez entendu, ce caractère joyeux, expressif, énergique, vif, mais qui est aussi une grande, grande virtuosité, ce qui en fait une pièce de choix pour les trompettistes, notamment pour leurs concerts. Et Arutunian est donc un compositeur décédé en 2012, arménien, et célèbre pour un style qui mêlait à la fois la tradition musicale arménienne avec les techniques classiques occidentales. Il est 8h49, vous êtes bien à l'écoute de Musique Matin sur RTS Espace 2, c'est le moment d'une bulle littéraire.
Quid non quertz ? Nicolas Julliard.
Philippe Artière est historien. Il s'intéresse aux petites choses, à l'infraordinaire, aux détails qui passent sous le radar de l'histoire officielle. Dans son nouveau livre, À bout portant, Versailles 1972, il adopte un point de vue très personnel pour décrire comment le racisme structure nos vies. À travers l'évocation de son enfance à Versailles, dans une cité nouvelle résolument blanche et catholique, l'auteur décrit la manière dont cette prise de conscience, celle du racisme inscrit dans son éducation, s'impose à lui, par des manifestations physiques, notamment sa peur lorsqu'il prend le RER pour se rendre à Paris et qu'il croise des groupes de grands noirs au Forum des Halles. Philippe Artière.
En fait, ce racisme, je ne le découvre qu'à travers ses peurs. Donc je le découvre à 15 ans, 16 ans. Quand je sors du RER au Halles, j'en prends conscience à ce moment-là. Avant, je ne me sens pas raciste. Et donc cette conscience-là, évidemment, c'est une conscience qui, enfin, j'allais dire heureusement, elle vous marque durablement. Et c'est pas du tout le projet du livre, hein, c'est pas comment ensuite s'en affranchir, se libérer de ce racisme-là. Bon, ça pourrait être un objet. C'est simplement de le pointer parce qu'il me semble que ce n'est pas propre seulement à cette période-là. Et il y a encore des espaces ségrégés en France. Et c'est contre cet aveuglement-là et d'autres que j'essaye d'énoncer en montrant voilà, d'autres espaces où finalement la figure de l'altérité, elle est toujours soit une figure étudiée, sciences sociales, ou une figure qu'on regarde ou qu'on lit avec un regard anthropologique, on va dire. Et c'est peut-être aussi ça qui m'amène à dire, bon, oui, on vit dans une société structurellement raciste. Hein, de même qu'on reconnaît aujourd'hui assez facilement que nous vivons dans un monde dominé par le patriarcat, eh bien, on vit dans un monde raciste. Et alors, il est peut-être moins sensible que dans les années 70, mais il est quand même très présent.
Philippe Artière, auteur de « À bout portant, Versailles 1972 », un récit personnel, un essai sur une tâche aveugle, celle du racisme qui gangrène la France d'hier et celle d'aujourd'hui. Le livre est paru aux éditions Verticales. Retrouvez l'entretien intégral dans le podcast de Quertz, la newsletter livre de la RTS, à laquelle vous pouvez vous abonner pour ne rien rater de l'actualité littéraire.
Cette grande, grande artiste qu'est Nathalie Dessay, soprano, que nous venons d'entendre dans cette vocalise de Sergei Rachmaninov, accompagné par le Berliner Symphony Orchestra sous la direction de Michael Schönwandt. Il est 8h57 et j'ai avec moi dans le studio Juliette Granier.
Bonjour Juliette. Bonjour.
Bon, vous venez avec un bouquin ce matin. Vous êtes déjà venu avec la semaine dernière, en fait.
Oui.
Vous m'avez fait la surprise de venir avec ce livre. Et je crois que vous voulez nous en parler ce matin.
C'était un peu raté. En fait, c'était comme cadeau de Noël. Et le soir même, vous m'avez dit, viens, on se fait une surprise demain à l'antenne. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien lui offrir de chez moi qui l'intéresse? Et finalement, en passant devant une boîte à livres de mon quartier, je me dis, tiens, pourquoi pas, il y a sûrement quelque chose là qui lui est destiné. Et je tombe sur ce bouquin, qui est un des rares bouquin contemporain que j'ai lu à peu près en entier, et qui est en fait l'histoire d'une rédemption d'un type qui s'est battu contre tout, envers et contre tout, mais qui a commencé assez mal. Hein. Il est passé par la case drogue, la case prison, et la case drogue, c'est parce qu'il a perdu la garde de sa fille. Et donc en fait, il s'évade de prison, il passe 10 ans à Bombay, il est repris en Allemagne, il recommence, et en cellule, en fait, il écrit la rédaction de ce best-seller mondial qui s'appelle Shantaram, traduit en 31 langues et publié dans 90 pays. Et en fait, ça se passe à Bombay, dit Mumbai.
Et Mumbai,
voilà.
Oui.
Et comme vous allez en Inde, comme je sais que vous êtes allé plusieurs fois en Inde, je me suis dit, tiens, il y a cette idée d'un type qui est, en fait, il a un cœur hyper large. Ça m'a fait penser à vous, pas parce que vous êtes repris de justice.
Oui, pour la drogue, c'est pour ça.
Le dealer officiel d'Espace 2.
Hop là.
Non, c'est vraiment parce qu'il y a ce côté un peu, je sais pas, sans vouloir faire un langage de secte, mais un peu un côté guerrier de la lumière. Et je me suis dit, tiens, mais peut-être que ça va lui plaire.
Et c'est un livre qui parle à tout le monde, vous me le dites, c'est un best-seller qui a... Et vous voulez nous en lire un petit bout, Juliette?
Vous
nous ferez ce plaisir.
Allez, si vous avez un peu de musique indienne qui passe par là, ça me va. Il m'a fallu du temps et presque le tour du monde pour apprendre ce que je sais de l'amour et du destin et des choix que nous faisons, mais le cœur de tout cela m'a été révélé en un instant alors que j'étais enchaînée à un mur et torturée. Je me suis rendu compte d'une certaine façon, à travers les hurlements de mon esprit, qu'en dépit de ma vulnérabilité, de mes blessures et de mes chaînes, j'étais libre, libre de haïr les hommes qui me torturaient ou de leur pardonner. Dans mon cas, c'est une longue histoire peuplée d'une foule de gens. J'étais un révolutionnaire qui avait renoncé à son idéal pour l'héroïne, un philosophe qui avait dissous son intégrité dans le crime, un poète qui avait perdu son âme dans le quartier de haute sécurité d'une prison. Ça, c'est dans les premières phrases de la première page.
Merci Juliette.
Je vous en prie. C'est donc Shantaram de Grégory David Roberts pour vous, Sydney.
Et oui, et on écoute Anushka Shankar dans ce morceau. Lassia, merci beaucoup Juliette. Merci à vous chers auditeurs, chères auditrices. Il est 9h et tout de suite les informations sur RTS Espace 2.